politique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Hubert Testard est notre invité, enseignant à Sciences Po, ancien conseiller économique et financier en ambassade dans différents pays d'Asie et spécialiste des questions de commerce international. Son dernier livre, Pandémie, le basculement du monde, est paru aux éditions de l'Aube. Hubert Testard, bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Des avions de la flotte commerciale mondiale cloués au sol, l'industrie touristique en pleine apocalypse avec l'annulation de 75% des voyages internationaux, une régression de plus de 9% des échanges de marchandises en 2020 et une chute vertigineuse des services, dégringolade de 100 milliards de dollars des fonds envoyés par les travailleurs émigrés à leurs familles, ce qui constitue une perte sèche pour les pays en développement dont c'est la première source de financement externe. Quel est votre regard, Hubert Testard, sur le basculement du monde et dans quelle mesure voyez-vous ce basculement être définitif ?
Oui, j'ai choisi ce terme de basculement pour le titre de mon livre parce qu'il synthétise une demi-douzaine de chocs de grande ampleur et de nature différente qui, combinés, nous conduisent à un changement d'équilibre assez profond dans la mondialisation. Alors, le premier choc concerne les échanges de biens et services, vous venez d'en parler. Il est asymétrique sur les services, qui étaient la partie la plus dynamique des échanges sur les 10 dernières années, et qui sont là durement touchés, et dans certains domaines, de façon durable, notamment, par exemple, vous avez parlé du tourisme international et les transferts des migrants, qui sont deux exemples. Au-delà du choc lui-même, il y a la prise de conscience aussi que les chaînes de valeur étaient trop concentrées sur un certain nombre de pays, notamment sur la Chine. Et donc, il y a une volonté de régionaliser de nouveau les échanges et de les relocaliser, qui n'est pas seulement une volonté des États, mais aussi des entreprises. Et ça a des conséquences qui peuvent être importantes pour les zones du monde qui ne sont pas assez régionalisées, comme l'Afrique ou l'Amérique latine. Alors, le deuxième choc, c'est le transfert d'activité du monde réel vers le monde digital et le non-humain. Et ça, c'est un choc qui est très important, qui est multiforme, qui est de grande ampleur et qui est durable. Et je vais prendre quelques exemples des activités qui étaient relativement secondaires jusqu'à présent, comme le commerce électronique, comme le télétravail, comme la télémédecine, sont en train de devenir beaucoup plus centrales. Un seul chiffre là-dessus, le commerce électronique en Chine va représenter plus de 50% des ventes de détail dès cette année. Le troisième choc, c'est le choc social, qui lui aussi est de grande ampleur, qui touche plus durement les pays en développement parce qu'ils n'ont pas bénéficié de transferts sociaux comme on a pu en avoir nous avec le chômage partiel ou les Américains avec les versements directs. Mais de toute façon, tout le monde est touché, l'emploi des jeunes est touché, les femmes sont plus touchées que les hommes dans ce choc social. Et il y a un lien entre ce choc social et les autres, les deux autres dont je viens de parler, c'est-à-dire que si l'on regarde l'évolution des chaînes de valeur d'une part et le basculement vers le digital, il est probable que le choc sur l'emploi ne sera pas conjoncturel mais sera durable. Quatrième élément, alors c'est un choc psychologique qui est le climat, puisque la catastrophe sanitaire que nous vivons illustre les futures catastrophes climatiques que nous allons probablement vivre si nous ne sommes pas en mesure de corriger le tir rapidement. Donc il y a un sentiment d'urgence qui est clairement accru, qui touche le monde entier et dans lequel l'Asie est en première ligne, puisque c'est l'Asie qui nous permettra ou pas de régler ce problème. Le cinquième choc est moins perceptible peut-être aujourd'hui pour l'opinion publique, c'est le choc financier, car il y a une fuite en avant impressionnante, extraordinaire, dans le financement par la dette et par la création monétaire, qui est le propre notamment de l'Occident, et en particulier en ce moment des États-Unis. Et ce choc-là crée une dynamique dans laquelle on ne sait pas comment on va sortir de ça. On n'a pas les clés, en fait, de ce changement-là. Et ce changement, il induit des risques nouveaux qu'on n'a pas encore la capacité de mesurer précisément aujourd'hui. Le dernier choc, c'est l'accélération du rattrapage asiatique, car dans cet exercice un peu darwinien qu'est le coronavirus, les Asiatiques se sont montrés mieux préparés et plus agiles. Donc, notamment l'Asie de l'Est. Voilà, donc c'est la combinaison de ces six chocs qui fait ce que j'appelle le basculement du monde.
Alors, Hubert Testard, accélération du rattrapage asiatique. Alors déjà, première question, je ne sais pas si ces chocs, vous les avez hiérarchisés par leur importance ou c'est simplement un égrenage, ce sera peut-être... Je vous la pose, cette question.
Non, je ne les hiérarchise pas parce qu'ils sont de nature différente, mais ils résonnent les uns par rapport aux autres. Je parlais du choc social et du lien avec les chaînes de valeur et le digital. C'est la combinaison de ces différents chocs qui crée l'ampleur du basculement.
Alors, vous l'évoquiez, l'accélération du rattrapage asiatique. J'ai ces chiffres qui illustrent parfaitement, mais finalement, le rattrapage asiatique était déjà bien là. En 1950, le produit intérieur brut des États-Unis représentait 27% du produit intérieur brut mondial. Il en représente aujourd'hui 15%. Donc de 27, on est passé à 15. Et dans le même temps, celui de la Chine est passé de 4,5% à 18,6% en parité de pouvoir d'achat. Tout cela a évidemment des conséquences sur l'équilibre du monde. Donc pandémie, phénomène d'accélération de ce rattrapage asiatique qui était déjà là, Hubert Destart.
Oui, il était déjà là depuis longtemps. Donc effectivement, comme vous l'avez souligné, le poids de l'Asie dans le PIB mondial a considérablement augmenté. On est aujourd'hui à peu près à 36% du PIB mondial globalement pour l'Asie. Et la Chine pèse la moitié de ça. Incidemment, l'année 2020 marque le passage de la Chine devant l'Union européenne en termes de PIB dans le monde. Je parle en données nominales, c'est-à-dire pas en parité de pouvoir d'achat, mais en valeur dollar. Donc, il y a une accélération, alors qui n'est pas globale sur l'Asie. C'est un point quand même important, c'est qu'on a une accélération pour l'Asie de l'Est. Donc, c'est en fait une petite dizaine de pays, dont la Chine évidemment en tête, mais il y a aussi le Vietnam, la Corée, Taïwan, quelques autres. L'Asie du Sud est une histoire tout à fait différente. L'Asie du Sud prend un choc absolument majeur, notamment l'Inde l'année dernière. Donc le PIB indien a été réduit de 8 à 9%. Il y aura un rebond, comme vous avez une dynamique de l'emploi très très forte en Inde avec les nouvelles générations, il y a 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail en Inde tous les ans. Ces 12 millions de jeunes, ils sont en l'air en Inde en ce moment. Donc il y aura un énorme problème d'emploi. Et je ne suis pas sûr que la reprise, même si elle peut être spectaculaire cette année, sera forcément durable parce que l'Inde a des problèmes structurels. Donc en fait, dans ce rattrapage asiatique, c'est clairement à l'Asie de l'Est et la Chine qui l'emporte en ce moment.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, on va parler bien sûr de la question climatique dont vous rappeliez qu'il y avait avec la pandémie un sentiment d'urgence et que l'Asie était en première ligne. Mais j'ai envie de vous poser cette question de la comparaison avec la crise financière de 2008, Hubert Destart. La crise de la pandémie, ça n'a rien à voir.
Alors, ça n'a rien à voir, en ce sens qu'un choc sanitaire ou un choc financier, c'est deux choses totalement différentes. Donc l'origine financière du choc de 2008 a créé des menaces financières directes qui ne sont pas matérialisées aujourd'hui, pour le moment, en raison du choc sanitaire. Par contre, en termes d'ampleur du choc, le choc sanitaire est plus important que le choc de 2008. Alors, il y a une différence dans la réaction des Asiatiques, et notamment de la Chine. En 2008, la Chine a réagi par des plans de relance massifs et un endettement accéléré. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. La Chine a changé de stratégie et elle cesse d'avoir une logique de surendettement au moment où les Occidentaux font l'inverse. Donc ça pose une question pour l'avenir.
Alors, j'en reviens à ma question sur le climat. Donc, sentiment d'urgence, l'Asie en première ligne. Vous estimez dans votre ouvrage « Pandémie, le basculement du monde », Hubert Destart, que l'Asie, Chine, Inde, Indonésie, vont jouer un rôle central dans les 30 années qui viennent.
Oui, elle joue un rôle central parce que l'Asie représente déjà 50% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Et plus des trois quarts de la progression des émissions. C'est-à-dire que si on veut pouvoir réduire les émissions, il est absolument indispensable que l'Asie le fasse, et pas seulement l'Europe ou les États-Unis, et que l'Asie le fasse dans des proportions importantes. Alors c'est d'autant plus difficile que l'Asie continue à avoir une croissance assez rapide. Donc avoir une croissance rapide tout en réduisant fortement les émissions, c'est une équation extrêmement difficile pour les Asiatiques.
La politique américaine, Joe Biden, on sait que, et on se souvient que Donald Trump a sorti les États-Unis de l'accord sur le climat. Avec Joe Biden, cette réintégration est en cours. Évidemment, on ne peut que se rassurer de cette réintégration américaine dans l'accord sur le climat, Hubert Destart.
Alors bon, la réintégration dans l'accord sur le climat est une très bonne chose. Ce qui est plus important encore, c'est les mesures que va prendre Biden pour réduire les émissions américaines. Donc il est en train de prendre des mesures fortes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que l'Amérique ne l'a jamais fait. Elle a en gros 30 ans de retard dans les politiques de réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est très bien que Biden s'y mette sérieusement. Alors les Chinois s'y sont mis d'une certaine façon plus tôt parce qu'il y a eu un effort significatif du côté chinois. Le problème, c'est qu'on a l'impression en Chine qu'il y a quand même plus une évolution qu'une révolution dans les politiques chinoises, car il y a toujours cette domination du charbon qui reste un peu le principal problème qui empêche la Chine de véritablement inverser la tendance. Et là-dessus, les derniers signaux qu'on a eus du 14e plan chinois ne sont pas forcément extrêmement convaincants. Il y a cet engagement de Xi Jinping à 2060 d'arriver à la neutralité carbone qui est un engagement très fort, mais c'est un engagement de long terme. Donc le problème, c'est qu'il faut que le court moyen terme, les 10 prochaines années, permettent vraiment de commencer à inverser la tendance en Chine. Et pour l'instant, on n'en est pas tout à fait sûr. Et derrière la Chine, il y a l'Inde. Et l'Inde pourrait aussi prendre le relais de la Chine dans la progression des émissions de CO2, notamment à cause du programme charbonnier indien, qui est également considérable. Donc on a deux enjeux majeurs. L'Indonésie, c'est la forêt. C'est la deuxième forêt tropicale après le Brésil. Donc ce que peut faire l'Indonésie ou pas pour éviter de détruire la forêt indonésienne est essentiel aussi.
Alors, dans la rivalité sino-américaine qu'on aura l'occasion de développer sur plusieurs aspects, la question du climat est-elle une question sur laquelle il peut y avoir véritablement coopération entre la Chine et les États-Unis, Bernd Estard ?
Écoutez, j'espère qu'il pourra y avoir une coopération parce qu'on en a absolument besoin. On ne peut pas se payer le luxe d'être en confrontation sur ce sujet-là. Alors, le retour des Américains dans l'accord de Paris va aider, puisque j'espère que la COP26, donc qui aura lieu à la fin de l'année, permettra de réelles avancées conjointes entre Américains, Européens et Chinois. Et ça pourrait commencer à faire modifier la donne.
Alors, vous l'évoquiez comme l'un des éléments, et on en a déjà reparlé, l'accélération du rattrapage asiatique avec la crise du Covid qui accélère la montée en puissance chinoise. Quelques mots, Hubert Estard, et votre regard sur la diplomatie chinoise, aujourd'hui de plus en plus agressive, finalement. Quelle interprétation donner à ce durcissement actuel de la Chine ? Est-ce qu'il faut y voir l'expression d'une crainte de Pékin face à la tentative américaine de ressouder ses alliances ?
Je crois qu'il y a plutôt une volonté d'affirmer la primauté de la Chine et sa capacité à résister aux influences et aux pressions occidentales. Donc là, il y a un durcissement qui est très très net. Les loups aériens dont on parle sont plutôt des chiens de garde qui sont là pour protéger la Chine contre les ingérences, entre guillemets, occidentales sur des questions comme le Xinjiang ou le Tibet. Donc ils ont cette vocation à montrer que la Chine devient maintenant intransigeante sur ces questions. Ce qui est évidemment problématique parce que nous ne pouvons pas, nous, abandonner ces sujets et renoncer à la défense des droits de l'homme.
Alors on développera bien sûr, mais ce qu'on peut constater et dans la façon dont la Chine aujourd'hui se positionne, c'est que finalement, puisqu'on parle de sanctions sur la question ouïghour, etc., aujourd'hui on est sanctionné par la Chine, non pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on dit.
Alors, pour ce qu'on fait quand même, puisque là il y a eu des sanctions occidentales coordonnées, donc il y a eu une réponse chinoise qui est disproportionnée. C'est un point notable, c'est-à-dire que la Chine a surréagi par rapport aux sanctions occidentales pour montrer qu'elle était prête à aller jusqu'au bout. Il y a aussi un autre phénomène, c'est le comportement sur le terrain face aux sociétés occidentales. Moi, j'ai connu l'époque en 2008 où il y avait déjà des boycotts de sociétés françaises, notamment. À l'époque, c'était la question du Tibet, c'était le Dalai Lama. Sarkozy avait menacé de ne pas aller aux Jeux Olympiques. Finalement, il y est allé, mais il a ensuite rencontré le Dalai Lama. C'était la dernière fois, d'ailleurs, qu'un dirigeant français rencontrait le Dalai Lama. Et tout cela nous a valu 6 mois extrêmement durs en Chine d'agressivité chinoise contre un certain nombre de sociétés occidentales, dont françaises, dont notamment Carrefour. Alors la différence aujourd'hui, c'est que les capacités de boycott en Chine sont considérablement accrues par le poids des réseaux sociaux. H&M, par exemple, a disparu carrément de tous les réseaux sociaux chinois. Si vous prenez un taxi avec Didi, qui est le Uber chinois, vous ne pouvez pas vous rendre à un magasin H&M. Il ne vous y conduira pas. Donc là, on atteint à des niveaux de rétorsion qui sont très inquiétants parce qu'ils ont un caractère un peu totalitaire.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors précisément, si on pousse ce raisonnement un petit peu plus loin, est-ce que la Chine a fait des erreurs ? Je pense aux questions d'investissement étranger dans son pays. Quand on voit aujourd'hui les États-Unis prendre les mesures de rétorsion, ça a commencé sous Trump de façon assez puissante. Finalement, il y a beaucoup de sociétés qui auraient pu s'opposer à la nouvelle politique américaine. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que la Chine en porte une certaine responsabilité, Hubert Testa ?
Oui, probablement, puisque c'est vrai que le marché chinois, il est relativement ouvert au niveau des échanges. Les protections douanières chinoises ne sont pas excessives par rapport à d'autres pays à revenus intermédiaires. Par contre, la protection au niveau des investissements, elle, est très forte. Et c'est tout l'enjeu de l'accord UE-Chine, d'ailleurs, sur les investissements, c'est d'arriver à faire baisser ces barrières. Et l'ampleur de ces barrières, plus les obligations de transfert de technologies forcées à faire un certain nombre de pratiques chinoises qui ont été et qui sont encore pratiquées de façon courante vis-à-vis des sociétés étrangères, ça a créé effectivement beaucoup de frustration. Ce qui fait que le business américain n'a pas haussé le ton quand Trump s'est mis à taper sur la Chine. Donc là, il y avait sans doute une erreur stratégique des Chinois. Ils auraient dû faire plus attention à ce que leur disaient les grandes multinationales occidentales.
Alors, avant de se poser la question de savoir si la Chine a théorisé la nécessité de redessiner l'ordre mondial, j'ai cette question concernant les États-Unis. On l'a dit depuis le début de cette émission, la domination chinoise est aujourd'hui évidemment tout à fait certaine. Est-ce que les Américains ont pris la peine d'élaborer une véritable stratégie face à la Chine ? En d'autres termes, est-ce que les États-Unis sont capables, d'après vous, Hubert Testa, de se penser en challenger et non plus en leader ?
Alors, je pense qu'ils se pensent toujours en leader. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas cessé de considérer qu'ils étaient leaders. La stratégie américaine, bon, avec Trump, elle était très brouillonne, donc on ne peut pas vraiment parler de stratégie. Il y avait une ligne, mais il y avait aussi des méthodes un peu erratique, visant à obtenir des résultats de court terme. Bon, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes avec la Chine. Je pense que la vision de Biden est beaucoup plus de long terme, que l'axe stratégique va être plus élaboré. Il y a eu quand même énormément de réflexions intellectuelles aux États-Unis sur comment traiter la Chine. Est-ce qu'on peut se passer de la Chine ou pas, et sur quel domaine. Je crois que tout ça va être mis ensemble, bout à bout, pour créer une stratégie qui devrait être plus cohérente.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est-à-dire de choisir ses terrains, parce que à l'évidence, les États-Unis ne peuvent pas tout simplement couper les liens globaux avec la Chine. La Chine, c'est 20% du PIB mondial bientôt. On se coupe pas de 20% du PIB mondial. Par contre, on peut agir sur toutes les menaces potentielles que représente le rattrapage technologique chinois quand il touche à des technologies qui peuvent avoir une dimension militaire ou stratégique. Donc là, il y a des choix à faire et c'est toute la difficulté. Donc sur les semi-conducteurs, par exemple, il est clair que la Chine est fragile. Elle est très largement dépendante des technologies étrangères et des produits étrangers. En même temps, pour l'industrie américaine des semi-conducteurs, c'est le premier client mondial. Donc on ne peut pas tout supprimer, il faut faire des choix. Et là, évidemment, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, c'est aux Américains de les déterminer, les détails. Mais ils auront des choix à faire, je dirais technologie par technologie, entreprise par entreprise, pour savoir ce qui peut continuer à être fait avec les Chinois et ce qui ne doit pas l'être.
Une certaine hiérarchie dans ses choix à faire
Oui, une hiérarchie, tout à fait. Ouais. Une hiérarchie sur les domaines les plus sensibles. Alors que ça a été fait avec Huawei sur la 5G, ça peut être fait avec d'autres sociétés, mais la coupure des liens avec la Chine globalement, c'est un contresens. Ça ne se fera pas. Le big business américain ne le veut pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a jamais eu autant d'investissements financiers américains en Chine qu'en ce moment. Donc en réalité, il y a de la part des grandes entreprises américaines, une volonté de continuer à profiter de l'essor du marché chinois.
Hubert Testa, on vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions.
Politique. Marie-France Chatin.
Hubert Testard est notre invité, enseignant à Sciences Po, ancien conseiller économique et financier en ambassade dans différents pays d'Asie et spécialiste des questions de commerce international. Son dernier livre, Pandémie, le basculement du monde, aux éditions de l'Aube. Hubert Testard, nous avons évoqué la rivalité sino-américaine dans la première partie de l'émission. J'ai cette question, combien de temps l'Union européenne va-t-elle pouvoir attendre avant de devoir choisir son camp entre les États-Unis et la Chine, si un jour elle doit le faire ?
Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut distinguer trois éléments. Il y a dans la relation avec la Chine, comme d'ailleurs avec beaucoup de pays en général, trois éléments : la confrontation, la compétition et la coopération. Alors, la confrontation avec la Chine, c'est les droits de l'homme et c'est aussi les enjeux géopolitiques du type Chine des mers du Sud ou Taïwan. Et là-dessus, nous avons des intérêts convergents avec les Américains. Et d'ailleurs, on l'a montré, il y a eu les sanctions sur le Xinjiang qui ont été coordonnées. Après, il y a la compétition. La compétition, elle est économique. Et là-dessus, les intérêts de l'Europe ne sont pas les mêmes que ceux des États-Unis. Donc, nous n'avons aucune raison en matière de compétition économique, de nous aligner sur les Américains. Donc c'est tout l'enjeu, si vous voulez, de l'accord UE-Chine sur les investissements. Il avait sa logique propre, et c'est pas parce que Joe Biden arrive à la présidence des États-Unis que tout doit changer. Le troisième élément, c'est la coopération. Et sur la coopération, alors on a nous, Européens, qui accordons énormément d'importance au climat, on a vraiment besoin de coopérer avec la Chine là-dessus. La seule question pour nous, c'est de savoir si les contraintes de la confrontation ne vont pas occulter le reste. Et si on ne va pas finalement ne plus pouvoir agir concrètement pour avancer avec la Chine.
Alors, plusieurs choses par rapport à cela. Déjà, la signature à venir de l'accord entre l'Union européenne et la Chine sur la question des investissements. Quel degré de certitude, Hubert Testard ?
Alors, avant de parler du degré de certitude, juste revenir sur le fond, c'est-à-dire pourquoi finalement on a voulu négocier cet accord. La première raison, c'est qu'on ne peut pas faire de libre-échange avec la Chine, on serait inondé de produits chinois, ce n'est pas dans l'ordre des possibles avec un pays comme la Chine, qui est déjà dominant sur le plan commercial. Par contre, sur l'investissement, il y avait une raison tout à fait valable, c'est que, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a des obstacles importants aux investissements étrangers en Chine. Et si on veut accompagner l'essor du marché chinois, il faut être présent. Alors on peut exporter des Airbus, on peut exporter des produits agricoles ou des produits de luxe, mais pour tout le reste, il faut être présent, il faut être investi. Et donc on a absolument besoin d'ouvrir les barrières chinoises. Et l'accord UE-Chine, il a cet objectif, et quand on regarde le contenu, il n'est pas mauvais. Il a une faiblesse majeure qui est les engagements en matière de convention de l'OIT sur le travail forcé notamment. Mais par contre, sur le plan économique, il est assez substantiel dans l'analyse que j'en fais. Voilà. Alors maintenant, le problème, c'est que cet accord-là, évidemment, si les Chinois appliquent des sanctions qui touchent des parlementaires européens, c'est pas la meilleure façon de convaincre le Parlement européen qui doit ratifier l'accord. Donc on est dans une incertitude totale sur la possibilité de ratifier cet accord. On a un an en gros pour y arriver, puisque normalement la ratification doit s'exercer l'année prochaine, d'ailleurs sous présidence française de l'Union européenne. Donc ce sera politiquement très sensible en France. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Je n'en sais rien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire.
Un autre sujet, le roi de l'art, pour combien de temps encore ? Dans son dernier ouvrage, Kishore Mahbubani, Le jour où la Chine va gagner, estime que la chose la plus dangereuse que Trump ait faite a été d'inciter les autres pays à cesser de compter sur la devise américaine comme monnaie de réserve mondiale. J'aimerais avoir votre avis là-dessus et que vous me parliez de l'essor à grande vitesse du yuan numérique qui finalement vient d'une certaine manière renforcer cette analyse.
Bon, sur l'analyse de Mahbubani, je suis pas totalement convaincu par ce qu'il dit sur les réserves, parce que quand vous regardez, là, il faut être factuel, quand vous regardez les avoirs étrangers en dollars américains dans les réserves de change, c'est les Asiatiques qui restent en tête, numéro un les Japonais, numéro deux les Chinois. Et le niveau de bons du trésor américain par les Chinois reste à peu près ce qu'il était dans le passé, c'est-à-dire un peu plus de 1000 milliards de dollars. Donc il n'y a pas eu de changement fondamental là-dessus, et je ne pense pas que les Chinois envisagent, ils vont réduire, mais probablement pas dans les proportions énormes. Donc c'est pas là que se situe pour moi l'enjeu. L'enjeu, il est plutôt dans le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif américain, le fait que les États-Unis et l'Europe soient en train de se lancer dans une création monétaire colossale. Ça avait déjà été le cas en 2008, mais là on triple la mise actuellement. Et donc on entre dans une période assez instable, avec des risques de retour de l'inflation, parce qu'une création monétaire à ce niveau-là, peut difficilement, à mon avis, ne pas aboutir à des situations d'inflation. On l'anticipe déjà, d'ailleurs, pour les États-Unis cette année, donc avec des risques sur les taux d'intérêt. Et au-delà de ça, alors comme les Chinois, eux, font un choix différent et ne se lancent pas dans le quantitative easing, ils n'en ont pas vraiment besoin, mais de toute façon, ils l'éviteront. La monnaie chinoise peut apparaître comme plus sûre à terme qu'un dollar qui va se dévaluer en quelque sorte avec le recours excessif à la création monétaire. Au-delà de ça, je crois que les Chinois s'intéressent à la monnaie digitale parce que justement la monnaie digitale, elle offre une sécurité plus grande du point de vue quantitatif. Le Bitcoin, par exemple, c'est une quantité fixe. C'est un peu comme était l'or dans le passé. Donc ça veut dire que ça offre des éléments de sécurité par rapport à une situation où les grandes monnaies ont tendance à devenir moins prévisibles. Donc il y a une évolution possible. Et je pense que sur les crypto-monnaies, les échos que j'ai par les gens, par exemple, qui sont dans la finance à Singapour, c'est que ça va très très vite. Et pas seulement la monnaie digitale chinoise, mais les crypto-monnaies en général. Et donc, on pourrait avoir un panorama international de monétaire qui serait assez fortement différent d'ici 5 à 10 ans. Donc, l'horizon n'est pas 30 ans, l'horizon, c'est 5 à 10 ans.
Hubert Testard, quelle réponse ces monnaies apportent-elles ?
Justement, elles apportent, d'une part, alors il y avait au départ dans le Bitcoin un côté un peu libertaire, hein, c'est-à-dire on désintermédiaire, on cesse de dépendre des banques centrales. On fait ça en direct. Et puis, on crée, je vous dis, des sécurités technologiques fortes de façon à rendre crédibles ces monnaies. Donc, à terme, imaginez qu'on puisse acheter, je sais pas, du pétrole avec de la crypto-monnaie. Pourquoi pas? C'est pas impensable. On en est loin aujourd'hui, bien sûr. Tout ça est encore marginal. Mais je crois qu'on sous-estime le potentiel de révolution financière qui est en train d'apparaître et que le quantitative easing à tout va, pour moi, est un élément de fragilité à terme.
Alors, révolution financière, davantage que simple évolution du paysage de la finance mondiale.
Je pense, oui.
Il faut s'en inquiéter.
Oui, parce qu'encore une fois, on voit pas exactement où on va. Sur le plan de la théorie économique, il n'y a aucun économiste qui est en train de pouvoir expliquer clairement pourquoi on peut, à ce point, faire de la création monétaire sans inflation. Parce que normalement, mathématiquement, arithmétiquement, on doit avoir un effet inflationniste. On ne l'a pas pour l'instant. Mais rien ne dit qu'on ne va pas l'avoir. Et si on l'a, à ce moment-là, il y a aussi des problèmes à terme de crédibilité pour les banques centrales. Alors, elles sont en train de revoir leurs critères. Vous avez vu qu'il y a eu une revue de la Fed qui consiste à dire maintenant que, bon, on va raisonner en termes de moyenne. Donc, si on peut être au-dessus de 2% d'inflation pendant quelques années, c'est pas grave, puisqu'on était à moins de 2% précédemment. La Banque Centrale Européenne est en train de faire la même revue stratégique en ce moment et pourrait aboutir à des conclusions similaires. Ce sera peut-être moins facile en Europe à cause des Allemands, mais il y a une réflexion. Et donc, on voit bien que les banques centrales savent qu'elles vont être obligées de poursuivre cette politique de quantitative easing parce qu'elles ont besoin de maintenir les taux d'intérêt bas, parce que l'explosion de la dette fait qu'une hausse des taux d'intérêt est catastrophique pour les gouvernements.
Vous écoutez RFI, Marie-France Latin.
Alors, on l'a dit, Hubert Testard, accélération du rattrapage asiatique, du rattrapage de la Chine surtout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la façon dont les pays asiatiques vivent cette affirmation de la Chine aujourd'hui, cette nouvelle confiance en soi de la Chine ?
Alors, je crois que d'abord, il y a une chose qu'on mesure mal en Europe et aux États-Unis, c'est l'ampleur de la perte de crédibilité des Occidentaux à l'occasion de cette crise. Et ça touche tous les Asiatiques. Il n'y a pas que les Chinois qui ont un nouvel hubris. Les autres sont un peu tristes, je dirais, de constater, en gros, l'échec occidental dans la maîtrise de la pandémie, les errements de la période Trump, alors qu'ils sont terminés aujourd'hui. On a une politique manifestement beaucoup plus structurée et efficace de Biden. Mais malgré tout, la perte de crédibilité est énorme. Donc les Asiatiques sont conscients du fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que de travailler davantage avec la Chine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à tout accepter. Regardez les Japonais, c'est intéressant parce que les Japonais ne se sont pas mêlés de la question du Xinjiang. Mais par contre, ils ont fait partie ils étaient dans la déclaration conjointe des Américains sur la question de l'OMS et de la recherche de l'origine du virus. Et ils sont également présents dans les condamnations vis-à-vis du régime birman. Donc, de façon indirecte, de s'attaquer à la Chine. Donc il y a une volonté des Asiatiques, notamment japonais, coréens, de manifester leur indépendance d'esprit vis-à-vis de la Chine.
Mais pas de choc frontal, en tout cas, on l'a bien compris. De toute façon, ne serait-ce que la Corée et le Japon ont des intérêts économiques très forts avec la Chine.
Tout à fait, ils ont des intérêts considérables. Le niveau des exportations coréennes et japonaises vers la Chine est considérable. Et puis il y a aussi une présence en termes d'investissement, alors qui est en train de se corriger un peu, parce que là aussi, pour être un peu plus autonome, ils sont en train de se désengager. Il y a une politique systématique des Japonais pour encourager leurs entreprises à investir davantage en ASEAN et moins en Chine. Les Coréens font à peu près la même chose. Les Taïwanais, pour des raisons évidentes, sont en train de commencer à réaliser qu'ils sont aussi trop dépendants des investissements en Chine. Donc il y a une volonté de diversification qui est très claire de la part des Asiatiques.
Avant de parler de Taïwan, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur l'Inde, Hubert Testard. La stratégie de Modi, comment Modi se situe-t-il aujourd'hui dans cette rivalité sino-américaine et son positionnement en Asie?
Alors, Modi a un positionnement propre à l'Inde, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a une longue tradition de non-alignement des Indiens, donc il n'y aura pas d'alliance forte de type OTAN entre l'Inde et les États-Unis, par exemple, ça n'est pas envisageable. Il y a toujours cette volonté indienne d'avoir une politique indépendante. Il y avait une volonté de rattrapage par rapport à la Chine. Ça va être difficile, là, dans la situation où on est. Et le problème de Modi, c'est qu'il passe plus de temps à s'occuper de l'hindoutva et de la promotion de l'idéologie hindoue. Mmh. Donc, des pratiques discriminatoires extrêmement dures par rapport aux musulmans, qui sont quand même 150 millions en Inde. Hein, donc, c'est pas rien. Et ça va peser sur la croissance indienne. Ça va peser sur la confiance occidentale, étrangère, vis-à-vis de l'Inde. Donc, il a pas pris, me semble-t-il, les meilleurs moyens pour procéder à une montée en puissance économique de l'Inde, même si, bien entendu, il y a un gros potentiel indien, il y a des secteurs très vivaces. Sur la pharmacie, l'Inde est puissante, et elle le montre en ce moment. Donc il y a des atouts indiens, mais il y a en même temps, il me semble, une politique qui est plus marquée d'idéologie que d'une volonté pratique de rattrapage.
Alors Taïwan, Hubert Testard, on voit la Chine poursuivre sa mainmise sur Hong Kong, ne pas infléchir malgré les sanctions sur sa politique dans le Xinjiang et sa façon de traiter les Ouïghours. Est-ce qu'on peut voir en Taïwan la prochaine prise de risque géopolitique de la Chine et est-ce qu'on se rapproche du moment où Pékin va agir sur Taïwan ?
Alors, je dirais clairement oui. Alors, il y a quatre raisons de fond. La première, c'est que Xi Jinping a annoncé la couleur lui-même, tout à fait clairement. Il l'a redit début janvier. Il a dit la Chine doit être réunifiée. Elle le sera, et si nécessaire, par la force. Donc, le message est très clair. Et Xi Jinping cherche à se placer là, à la hauteur de Mao Tse-tung ou de Deng Xiaoping dans l'histoire chinoise. Donc, il a un intérêt propre important à ce que la réunification se fasse. Le deuxième élément, c'est que Taïwan, c'est un peu un porte-avions insubmersible au large des côtes chinoises face au Pacifique. Donc contrôler Taïwan, c'est ouvrir la porte à la marine chinoise vers le Pacifique, avec le Japon au nord, les Philippines au sud. Donc une voie directe pour une prise de contrôle plus globale du Pacifique par la marine chinoise. Le troisième élément, c'est que Taïwan, c'est un hub technologique extrêmement important. Ils sont au cœur de toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs, précisément, là où la Chine est faible. Et donc, là aussi, prendre contrôle de Taïwan, alors ce sera peut-être pas un contrôle total, parce qu'il y aura des fuites, bien entendu, de la part des Taïwanais, mais malgré tout, ça peut être un élément de rattrapage technologique important pour la Chine face aux États-Unis. Et le quatrième élément, c'est que la Chine n'a plus de carottes à offrir, parce qu'avec la prise de contrôle de Hong Kong, le mythe du un pays, deux systèmes a implosé. Et même les gens du Kuomintang à Taïwan ne croient plus à cette voie possible. Donc il n'y a plus à Taïwan même de gens prêts à vraiment faire le nécessaire pour un rapprochement avec la Chine. Donc la voie pacifique, elle est moribonde. Et comme elle est moribonde, qu'est-ce qui reste ? Il reste la voie coercitive. Alors, pas forcément une invasion globale totale, parce que ça présente des risques énormes pour la Chine et le coût serait très élevé. Mais bon, là, je me réfère peut-être aux 24 façons de faire la guerre que citait Thomas Gomard dans son livre sur les guerres invisibles, et qui sont une liste d'ailleurs inventée par les Chinois eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de façons pour la Chine d'essayer de faire pression sur Taïwan, sans aller nécessairement jusqu'à la guerre totale, mais de façon suffisamment forte pour faire peur aux Taïwanais et pour les faire plier. Donc c'est ça, je pense, que va être la stratégie chinoise. Et l'horizon, L'horizon, on parle beaucoup de 2027, parce que 2027, c'est la fin du troisième mandat de Xi Jinping. Mmh. Et 2027, c'est aussi le centième anniversaire de la création de l'armée populaire de libération chinoise.
Alors, faire peur aux Taïwanais pour les faire plier, de quels outils l'Occident dispose-t-il pour contrer la Chine sur Taïwan, Hubert Testard ?
Alors, il y a évidemment l'alliance militaire avec les États-Unis qui est centrale, donc il faut qu'elle soit solide. Biden dit qu'elle sera solide et, je pense, fera ce qui est le nécessaire pour le montrer. Donc ça, c'est un point très important. Bon, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les Occidentaux auront peut-être du mal à intervenir directement. Je pense par exemple à toutes les tentatives de déstabilisation de l'Internet taïwanais par les Chinois, qui sont déjà assez présentes aujourd'hui, mais qui vont probablement se multiplier. Donc là, il y a des domaines qui vont relever surtout de la responsabilité de Taïwan. Mais la liberté de navigation, la Chine des mers du Sud, tous ces sujets-là, les Occidentaux peuvent jouer un rôle. Les Français aussi, d'ailleurs, qui participent d'ailleurs à cette liberté de navigation avec les Anglais. Donc je pense que les Occidentaux peuvent essayer de convaincre la Chine que cette tentation de la coercition ne doit pas pouvoir aller trop loin.
J'allais vous poser la question de savoir si finalement Taïwan, c'était une question de temps.
Je vous l'ai dit, il y a un horizon de temps qui, pour les Chinois, est probablement pas extrêmement lointain, avec beaucoup d'incertitudes sur le calendrier, bien sûr. Alors, il y a une autre raison pour laquelle nous, on a tout intérêt à préserver Taïwan, c'est que Taïwan, c'est un modèle de démocratie chinoise. Ça montre que la Chine peut être démocratique. C'est aussi un modèle en Asie. Par exemple, Taïwan est un des pays les plus avancés pour les droits des femmes. Ils ont un ministre transgenre qui est ministre du numérique. Ils ont légalisé le mariage homosexuel. Enfin, ils ont fait beaucoup de choses qui ne sont pas très répandues en Asie. Donc, ils sont un petit peu aux avant-postes, je dirais, de la démocratie asiatique. Et ça, c'est précieux. C'est très précieux, indépendamment même de l'intérêt géopolitique. Il y a un intérêt plus large à ce que Taïwan soit protégé. Donc, on a nous occidentaux, évidemment, beaucoup de raisons de nous mobiliser en faveur de Taïwan.
Hubert Testard, est-ce que le degré de connaissance des Français sur l'Asie vous a surpris à votre retour en France ?
Je dirais que l'impression qu'on a, c'est qu'il y a toujours un décalage de perception qui est de l'ordre d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, la perception qu'on a de la Chine aujourd'hui, c'est la Chine d'il y a 10 ans, peut-être. On continue à raisonner Nord-Sud, par exemple. Dans un certain nombre de domaines, le Sud, c'est nous, et le Nord, c'est la Chine. On peut prendre le commerce électronique, mais on peut prendre aussi l'automobile ou d'autres domaines. Donc il faut cesser d'imaginer les choses. Quand on parle, par exemple, du pillage technologique, c'est vrai, il existe, mais il y a aussi une créativité énorme en Chine. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans le cas de la Chine, c'est la créativité des modèles économiques. Ils ont une capacité à créer des nouveaux modèles économiques qui est énorme. Et ils ont une capacité à s'emparer des bonnes idées qui est remarquable. Je vais prendre un seul exemple dans le domaine du climat. Les Danois ont inventé les autoroutes pour les vélos. C'est les Chinois qui sont en train de les mettre en place, à grande vitesse. Et donc, il y aura des autoroutes pour vélos dans toutes les grandes villes chinoises à délais relativement rapides. Nous, on n'a pas fait ça, on n'est pas encore en train d'y arriver.
Il faut dire aussi qu'ils sont très nombreux pour avoir de bonnes idées. Ils s'y mettent à plus grand nombre
Ils bénéficient de la taille du marché chinois. Donc, effectivement, une bonne idée reprise à l'échelle d'1,4 milliard d'habitants, ça pèse lourd. Et ça, c'est un avantage comparatif naturel, je dirais, des Chinois.
Hubert Testard, un dernier élément en ce qui concerne notre vision de la Chine et en guise de conclusion de cette émission.
Oui, je crois qu'il faut pas oublier qu'il y a deux Chines. Il y a la Chine du Parti communiste, la Chine qui réprime les droits de l'homme, qui réprime les minorités, qui est offensive sur certains enjeux géopolitiques. Celle-là, on ne l'aime pas, on n'a aucune sympathie pour elle et on est donc dans une logique de confrontation. Mais il y a aussi l'autre Chine, et ça c'est la Chine des individus, des Chinois eux-mêmes, qui sont extraordinairement créatifs, extraordinairement actifs et qui apportent plein d'idées intéressantes. Donc dans le domaine du climat, c'est cette Chine-là qu'il faut regarder. C'est les entreprises, c'est les entrepreneurs, c'est les ONG chinoises. Et avec ces gens-là, on doit pouvoir travailler. Et il ne faut pas s'enfermer dans une logique de pure confrontation avec le Parti communiste.
Merci Hubert Testard. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Pandémie, le basculement du monde » aux éditions de l'Aube. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.